Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi, j'ai pas compris, Joseph, je sais pas.
Tu devrais respecter les autres présidents.
Don't talk.
I'm talking on my behalf.
You try to be, you know, you're smart in your business, but you don't understand anything in media, okay?
You're so bullying everyone.
Out of this game.
You're bullying.
John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Kaboul.
Right.
Vincent, Jean-Pierre. Oui, Louis, vraiment, fâché.
RMC, l'afterfoot.
Simon Dutin.
Entouré ce soir d'Elton Mokolo et Walid Acherchour, l'after comme tous les soirs de l'année. Est-ce qu'on aura le droit à nouveau à des séquences comme celles que vous avez entendues dans la petite prod de notre générique? Parce que même les présidents de l'Union savent faire le spectacle parfois. À l'insu de leur plein gré, comme aurait dit Richard Virenque dans un instant.
Sacrée référence.
Dans un instant, on va continuer à parler de l'OM et de la saison qui s'annonce avec un mercato aux moyens limités. Avant sa petite tour par Albi, les championnats de France d'athlétisme, Camille Borin nous a fait signe. Rebonsoir Camille.
Oui, rebonsoir Simon, rebonsoir à tous. Oui, le 3000 mètres steeple masculin s'est terminé. C'est Alexis Miellet, le champion d'Europe en titre, qui s'est imposé en 8 minutes 24 secondes et 64 centièmes devant Pierre Boudy et Oscar Thébault. Voilà, il n'avait pas fait une super saison, mais là, il marque bien qu'il est prêt pour les Europes. Donc voilà, c'est le podium de ce 3000 mètres steeple. Et puis pour demain, je rappelle quand même les rendez-vous, 14h50, la perche masculine.
Bien sûr.
Et puis 16h45, la finale du 110 mètres. Et je parle moins fort parce qu'il y a une course qui va débuter. Je ne veux pas me faire disputer. Oui. Mais voilà, c'est la finale du 110 mètres. Ce sera la dernière épreuve de ce championnat de France où, là encore, va falloir se départager pour les Europes.
Camille Borin de la rédaction RMC Sport, elle a appris au contact des meilleurs et notamment d'Eric Salio qui s'est là.
C'est bien ce côté ASMR.
Et voilà, on respecte évidemment la concentration des champions. Merci beaucoup, Camille. On te retrouve évidemment pour les rendez-vous, notamment que tu nous as donnés. Demain sur l'antenne de RMC, demain après-midi, Camille Borin en direct des championnats de France d'athlétisme qui se déroulent tout le week-end à Albi avant les championnats d'Europe. Nous, on revient à nos moutons marseillais, hein, Marseille qui a été battu aujourd'hui 3-0 par l'OGC Nice en match de préparation. Je vais accueillir Lai qui a fait le 32-16 et qui veut nous parler de la saison à venir de l'OM. Salut Lai, bienvenue dans l'after.
Salut Simon, salut Walid, salut Elton.
Salut
Elton. Avant de te laisser développer ton avis suite à celui d'Elton qui finalement pense
qui, que... Je sais qu'il m'a écouté attentivement.
Oui, donc voilà, mais pour les auditrices et les auditeurs qui nous rejoignent...
Je t'ai bien écouté, t'inquiète.
Elton...
Ouais, parce que je pense que tu m'as envoyé un message, c'est ça?
Ouais.
Oui, je fais attention à tout.
Elton nous parlait de la compo marseillaise alignée ce soir. Alors évidemment, c'est un match de préparation, on fait des tests et puis... des remplacements de dernière minute, de Lange dans les buts, Bezaf, Egan Riley, Hamzaoui, Emerson derrière, Harry Toysberg, Gomez, tiens, il est de retour et pourquoi pas une Gomez. Grande saison d'Angel Gomez, Mumbanya, tiens, c'était la surprise, il a remplacé au dernier moment Pacheco, alors on sait pas si c'est parce que Pacheco était blessé au dernier moment, Madi et Neil Mopé, bis. Qu'est-ce que tu
pas encore vu de match, mais moi un mec comme Angel Gomez ou Genesio.
Moi j'ai envie de voir ça, bien sûr.
Ouais, même s'il avait été très décevant l'année dernière, mais je me dis que dans une saison où après il faudra voir son salaire, s'ils peuvent le payer, s'il y a pas d'offre en Angleterre. À 23 ans, un joueur même.
23 ans.
Il a 27 ans, il est un peu plus âgé. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que dans son registre là, en Ligue 1, c'est un joueur, ça peut être un joueur utile.
Ah, mais je suis bien d'accord.
Si on retrouve le vrai Angel Gomez, pas son cousin. Hein.
Celui qui s'était épanoui et qui était devenu international sous les ordres de Bruno Genesio. Qu'est-ce que tu voulais.
Il touche 300 quand même. Il a un gros salaire.
Ça va être ça, un gros salaire. 400 000, je crois, à peu près, comme ça. Un peu moins. Aux alentours.
Vers 300, on va dire.
Lai.
Ouais.
Oui. C'est tout ce que tu avais à nous dire sur la saison qui s'annonce du côté de Marseille et ce mercato notamment.
Sérieusement, Elton, j'aimerais bien être optimiste comme tu l'as été sur tes arguments que j'ai bien écouté, attentivement. Mais le problème, c'est que quand tu dois commencer un championnat dans un mois et que tu as vendu ton meilleur joueur qui est Greenwood et que tu vas devoir refaire un milieu de terrain, tu n'as pas fait un joueur pour l'instant, tu dois refaire une attaque, je pense, avec un ailier droit qui devrait arriver à droite. Que tu changes d'entraîneur et que tu as quand même des restrictions très très limitées. Moi, être optimiste avec ces conditions-là, je ne sais pas comment on peut l'être. Moi, en tout cas, moi, de mon côté, je n'arrive pas à être optimiste avec ça. Sérieusement, il n'y a rien qui me donne envie d'être optimiste là, à l'heure actuelle à l'Olympique de Marseille. Que ce soit l'entraîneur qu'on a pris, oui, c'est un bon entraîneur de Ligue 1, mais ce n'est pas un entraîneur qui me fait rêver non plus. C'est un bon entraîneur sans plus. Et là, vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai entendu parler de l'exigence de l'Olympique de Marseille va être baissée. Moi, je pense pas que les supporters vont demander à ce qu'on soit sixième ou septième. Ça, c'est le discours du club. Mais est-ce que les supporters vont accepter cela? Moi, je pense pas une seconde que les supporters vont accepter de finir sixième, cinquième cette saison.
Avant qu'Elton et Walid te répondent, quelques messages qui nous parviennent sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Laurent qui nous dit la farce, si déjà avec des moyens l'OM n'y arrivait pas, alors sans moyens ça risque d'être folklorique. En plus, sans Greenwood qui était quasi le seul à mettre des buts,
ça,
sans
buteur,
je
ne rien dire ça.
Ouais, oui, attends, mais je vous lis les réactions, oui, mais oui, évidemment, je ne vous dis pas que les auditeurs ont raison. Gaëtan qui suggère la piste Ludovic Ajork à Jorque, voilà, qui pourrait être un bon joueur pour cette attaque marseillaise. Et puis sur le chat de la chaîne YouTube de l'after, Cookie qui nous dit Genesio a fini en burn-out partout où il est passé, y compris des clubs sans pression comme Rennes et Lille. Il est génial de le prendre à l'OM, c'est évidemment ironique. Mais tu parlais de Lorenzi qui a le savoir-faire. Moi, il me fait un peu penser, tu sais, à ces émissions de télé où on t'explique comment faire un menu gastronomique avec, tu sais, un budget limité. Mmh. On te montre ce qu'on peut, ce avec quoi on peut remplir le panier. Moi, ça me fait penser à ça. Frigo, quoi. Mmh. Il est capable de te presser 2 litres avec une seule orange, oui, comme on disait chez moi. Là, t'es pas convaincu, toi, par t'es dans le Genesio bashing, toi aussi. Il faut pas tomber là-dedans.
Je suis pas dans le Genesio bashing. C'est pas ça que je veux dire. C'est un bon entraîneur de Ligue 1. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas un entraîneur qui me fait rêver. C'est un entraîneur qui a failli démissionner à Lille parce qu'il a perdu 5-6-7 matchs à Lille. Hein. Je parle de à Lille. Et il a failli démissionner. C'est l'État qui l'a empêché de le faire. Moi, c'est pas des idées que je préfère. C'est pas mon football, on va dire. Mon football, c'était plus des entraîneurs comme Roberto. Après, là, on a baissé d'exigence. C'est pas parce que le club a baissé d'exigence que les supporters vont baisser d'exigence. Hein.
Il va falloir faire ce travail aujourd'hui là, parce que la réalité c'est que de toute façon moi je vais avoir une indulgence envers Lorenzi et Genesio parce que bon, ils subissent la situation. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière en termes de résultats, cette fin de saison cataclysmique qui fait que aujourd'hui t'es pas en Ligue des Champions, donc t'as des problèmes financiers. Et la réalité c'est que comme ce que je disais pour Bay à l'époque, si Genesio est à l'OM actuellement, c'est parce que l'OM s'est vautré. Et si Lorenzi est là, c'est la même chose. C'est parce qu'on a, on est sur une refonte de projet où on était sur quelque chose de, on était sur un blockbuster à l'Olympique de Marseille avec De Zerbi, avec Benatia, et là on va essayer d'être sur un film français avec un peu moins de moyens et avec un peu moins de d'exigences sur le nombre de,
laisse-moi terminer là.
Non mais sur le nombre de personnes qui vont aller en salle pour regarder le film. La réalité elle est là, tu peux monter, tu peux descendre. Encore une fois, s'ils arrivent à avoir le savoir-faire pour avoir une équipe compétitive, parce que je pense que tout le monde ne va pas partir de Marseille.
C'est de ce que j'espère. Hein.
Mais globalement, ce ne sera pas Genesio et Lorenzi. Les Genesio et Lorenzi, on va les juger sur leur travail à l'instant T. Mais sur la globalité, ils récupèrent une bécane qui n'est plus
mais
la même,
problème,
en fait.
C'est pas, hein.
Donc
problème,
voilà, donc en fait, qu'est-ce que tu vas, tu vas faire quoi? Tu vas crier sur qui? Tu vas faire quoi?
Après, attention. Non, mais moi, j'ai pas dit que j'allais crier. J'ai juste dit qu'on va pas baiser nos exigences parce que eux, ils se sont vautrés sur les 6 dernières années et que nous, on va se contenter d'être 5e, 6e en Ligue 1. Non! C'est ça que j'ai dit.
Mais tu seras déçu. Tu faudras voir la saison comment elle se passera. Mais la réalité, c'est que eux, dans leurs objectifs, ils vont avoir une communication bien moins agressive que les dernières années. Et peut-être que cette communication-là va permettre à tout le monde de baisser sur la tension qu'il y avait. T'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un match perdu, l'Olympique de Marseille, c'était un séisme au club, c'était un séisme dans la communication, dans la gestion de crise, c'était un séisme parce que la réalité pour le club, c'était à tout prix d'aller en Ligue des Champions. Peut-être que là, eh ben, ils vont avoir 10 euros. Ils vont avoir 10 euros. Bah, les 10 euros, ils vont en dépenser 5. Et en fait, finalement, pour se dire que, avec ces 5 euros, s'il n'y a pas la Ligue des Champions, ben, on peut se retourner. Peut-être que ça peut être une bonne chose pour l'Olympique de Marseille.
Après, attention, il y a plusieurs choses qui peuvent coexister. Des passionnés, l'actu marseillaise, ça oui. Avoir une approche beaucoup plus modeste par rapport à l'an dernier où tu disais qu'il fallait beaucoup plus se rapprocher du PSG, oui. Et ne pas arriver jusqu'au point de se dévaloriser. Moi, quand je regarde la réalité de l'effectif de l'Olympique de Marseille, t'as un candidat pour la Ligue des Champions. T'es un candidat.
Oui, t'es un candidat, sauf que l'année dernière, tu devais faire deuxième. Si tu fais pas deuxième l'année dernière, c'est une saison ratée.
Et juste pour recentrer, notamment par rapport à ce qu'un autre auditeur a dit sur.
Mais entre candidat et être deuxième budget, donc tu dois faire deuxième, et faire top 24 de Ligue des Champions, c'est quand même très différent. Oui.
Maintenant, cette réalité, elle n'existe pas de manière momentanée. Mais maintenant, moi, je continue de dire que ton objectif, c'est avec des champions. Et j'ai envie de faire attention par rapport à ce qui a été dit sur le chat. Il y a quelque chose qui va te faire énormément de bien sur la saison 2026-2027. Arrêtons de croire à l'homme providentiel à Marseille. L'homme providentiel sur la saison 2025-2026, c'était De Zerbi, c'était Mason Greenwood. Moi, j'ai envie aussi de croire à une histoire de l'Olympique de Marseille où l'homme providentiel n'existe pas et on a une réflexion beaucoup plus collective basée sur le fait que on doit avoir une équipe compétitive.
Ça, je pense que ça va te faire du bien. Ça,
oui, si on a ça serait une première étape très importante et ne pas se reposer sur entre guillemets sur le destin d'un ou deux hommes pour te dire que on doit arriver à ce classement-là.
S'il est venu au Vélodrome, t'as gagné. S'il est pas venu, t'as perdu quoi.
Voilà. J'ai pas compris.
Bah, en fait, Mason Greenwood quoi.
Bah, voilà.
Oui, alors s'il est venu, t'as gagné. S'il est pas là,
Oui, alors il y a Nelson Inji sur le chat de la chaîne YouTube qui nous dit j'espère que Walid se souvient qu'il nous a dit que l'OM serait meilleur sans Greenwood.
Ah oui, je le pense.
Bah voilà.
Ah moi je pense qu'ils seront meilleurs collectivement sans Greenwood, je pense que ça va faire en tout cas collectivement le danger va se répartir de meilleure manière. Bien évidemment que Greenwood moi j'avais dit Greenwood est le Mbappé du Paris Saint-Germain à l'OM à l'échelle de Mason Greenwood et à l'échelle de l'Olympique de Marseille avec ce qu'il apporte de très bien et ce qu'il apporte de très mauvais. Donc en fait, moi, je pense qu'il y aura des vertus positives. Maintenant, bien évidemment, qu'il y a des matchs que Greenwood a réussi à liquider, que certains ne pourront pas. Tu ne pourras jamais retrouver, parce que sur les 10 dernières années, en termes de talent, je pense que t'en as pas 10 000 des mecs comme lui. Par contre, dans le fait de ne pas fédérer autour de lui, d'avoir un leadership qui frisait le néant, je pense que tu peux avoir un assemblage meilleur.
Cette idée collective, la réalité de l'Olympique de Marseille, notamment qui doit dégraisser le mammouth, qui a des ambitions sportives. Un peu à la baisse, ta réalité sportive, c'est quand même de recruter l'un des tout meilleurs entraîneurs de Ligue 1 sur les dernières années et recruter probablement en rapport qualité-prix le meilleur directeur sportif de Ligue 1. Donc, faut aussi se considérer quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, t'as quand même une base qui reste intéressante.
Voilà, le principe de réalité, il est si connu et si répandu. Je remercie Lai d'avoir fait le 32-16. Et on lui souhaite une bonne préparation.
Et Lens et Lyon sont les meilleurs exemples.
Ouais.
Exactement. On peut faire très bien avec très peu. Ouais.
2016-2017, tu démarres avec Franck Passy, t'as le président Chico Kumbi, si je le prononce bien. On n'en est pas à ces considérations-là. On est sur des considérations où t'as quand même une base avec des internationaux qui garnent cet effectif.
C'est le terrain, la dynamique qui parlera.
Exactement. Nico sur le WhatsApp de RMC qui nous dit « Je suis supporter de l'OM depuis 35 ans et franchement, quand j'entends l'ail à l'antenne, MDR, j'ai l'impression que nous, supporters de l'OM, on a des parts dans le club. Qu'est-ce qu'il fera si ça ne lui va pas concrètement ? Il râlera, il sera déçu. Et il espérera que la situation s'améliore. En tout cas, prochain rendez-vous pour l'OM, qui, je vous le rappelle, a perdu ce soir, en fin de journée, 3-0 sur la pelouse d'un OGC Nice pour lequel on était inquiet, dont on reparlera certainement prochainement dans l'after. Prochain rendez-vous pour l'OM, c'est le 9 août. Pas avant, ce sera contre l'Athletic Bilbao.
La dernière répétition.
Voilà. Alors ça, ce sera un des événements de l'été. C'est mardi que Zinedine Zidane sera officiellement nommé sélectionneur de l'équipe de France. 7324 jours, j'ai compté, après son dernier match en bleu. C'était la finale du Mondial 2006. 1893, après sa dernière rencontre dirigée en tant qu'entraîneur. C'était sur le banc du Real. Zizou is back. Et ça va envoyer, en tout cas tout le monde l'espère, ça va envoyer sur le terrain, certains pensent même le savoir à l'avance. Est-ce que ça va envoyer en conférence de presse ? Parce qu'évidemment, il va être présenté aux médias, conférence de presse à suivre en direct mardi sur RMC. Elle sera débriefée, décortiquée sous toutes les coutures dans l'after de 20h à 23h autour de François Pinet. Les gars, qu'est-ce que vous attendez, vous, de la première prise de parole de Zizou en tant que sélectionneur ?
Ce qu'on attend du côté de Zinedine Zidane, c'est déjà un retour médiatique, parce que effectivement, il y avait eu des interviews, mais retour médiatique en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur, c'est une idée qui m'intéresse évidemment, parce que faut quand même préciser, le dernier match entraîné par Zinedine Zidane, c'est Real Madrid-Villarreal. On était encore à l'époque du Covid avec les tribunes vides. Donc forcément, bah, il s'est passé beaucoup de choses.
Il est rouillé souvent, c'est ça que tu sous-entends ?
J'ai pas dit ça. Je pense que 5 ans plus tard, avec cet habit de sélectionneur, ça va être important de l'entendre sur le plan médiatique, avec un rôle qui va être très important, parce que Zinedine Zidane, dès ce mardi, va incarner l'homme de la reconquête. L'homme de la reconquête par rapport au fait que l'équipe de France, en 2028, ça va faire 10 ans que t'as pas remporté un titre majeur sur le plan international. Alors oui, on est très gâtés, et j'avais écouté l'avis de Walid il y a quelques jours, on est très gâtés, mais enfin, 10 ans, ce n'est pas rien. Et donc, il y a une pression qui va s'installer, et Zinedine Zidane, il va arriver, pas forcément en tant que sauveur de la nation, mais en tant que, justement, l'homme de l'ambition, l'homme de la reconquête, et moi, ça va m'intéresser de savoir quels vont être les contours de l'équipe de France. Bon, je pense que lui, il a une balance au niveau médiatique, il pèse tous ses mots, mais enfin, ça va être une première, une première étape, celle de la présentation.
Conférence de presse de présentation de Zidane, 11h mardi au siège de la Fédération française de football, spécial évidemment, édition spéciale sur RMC de 11h à 13h, et puis je vous le disais, after dédié à cette nomination et ses premiers mots, 20h-23h autour de François Pinet. Walid, qu'est-ce que tu attends dans mon émission,
Qatar, il y a 3 jours, là, on avait eu une joute verbale avec Gilbert, où moi, je pensais, enfin, je préconisais à Zidane de ne pas s'exprimer, aussi rapidement.
Pourquoi?
Parce que je disais que c'était beaucoup trop frais et que la conférence de presse allait être centrée sur l'échec de l'équipe de France, et qu'on n'allait pas se nourrir, en fait, de sa vision football dans la globalité. Et moi, je voyais plus une intronisation avec un communiqué sur les réseaux sociaux, et derrière une vraie conférence de presse dans un mois, à la rentrée, un truc vraiment où l'eau aurait coulé sous les ponts. Et je suis quand même globalement surpris de, je vais pas dire de se mettre en danger en termes de communication, mais je pense qu'on va lui parler de Deschamps, de les France-Espagne, qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là, de l'attaque à 4. Et je trouve que c'est quand même assez frais, si je me mettais à la place de son plan com, quoi.
Oui, mais est-ce qu'il va répondre?
Si c'est pour avoir un Zidane aujourd'hui qui est déjà un peu sur la défensive, ou qui va essayer de balayer d'un revers de main toutes les questions sur la transmission avec Didier Deschamps, le bilan de Didier Deschamps, moi ça va pas me plaire, en fait. Ça,
c'est sa nouvelle réalité,
il va arriver, c'est le boulot,
mais
tu comprends ce que je veux te dire, c'est que pour moi,
bien évidemment,
en fait, dans la pertinence de cette conférence de presse, je me dis qu'il fallait quand même un peu de temps de refermer cette page de la Coupe du Monde. Bon, maintenant on l'a, hein, bien évidemment. Maintenant, ce que j'attends, moi j'ai toujours dit, je veux savoir ce qui s'est passé en 5 ans. Dans sa tête, dans son développement footballistique, dans son staff, qui nous apporte véritablement de l'analyse footballistique par rapport à ce qu'il a, à même ça. Même son choix d'attendre l'équipe de France comme ça, je trouve qu'il y a pas mal de questions. On l'a pas entendu, en fait.
Qu'on va y avoir droit. Mais sur les principes de jeu,
mais comment il voit cette équipe de France? Qu'est-ce qu'il veut lui donner comme identité, comme ADN? C'est ça que moi je voulais attendre sa première liste, avoir une vraie conférence de presse d'intronisation avant les premiers matchs. C'est en septembre, non?
C'est fin
septembre. Parce que là, il aura travaillé, je pense, qu'il a déjà travaillé, mais la construction de sa liste, ce qu'il veut, le vrai état des lieux qu'il a fait de la Coupe du Monde, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Là, je pense je serais surpris de l'avoir, ça. D'avoir un peu cet audit.
Moi, je te signe que tu l'auras pas.
Si on a 15-20 minutes en disant voici Zinedine Zidane, je vais vous présenter le monsieur, etc., sélectionneur, et qu'on a un peu des réponses très, très évasives et tout.
C'est intéressant ce que tu dis par rapport au timing, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, tu as Diallo, le président de la fédération. Et aujourd'hui, Zinedine Zidane, c'est une prise de guerre. Diallo est le président de la Fédération française qui va rester comme celui qui a ramené Zinedine Zidane en tant que sélectionneur. Et donc, il y a aussi cette volonté de le mettre en avant pour pouvoir se dire, nous, on l'a fait, et donc c'est pour ça qu'on le présente. Après, c'est vrai que sur tes questions, oui, on aimerait bien entendre Zinedine Zidane s'exprimer sur la Coupe du Monde, il va pas le faire, mais le fait est qu'aujourd'hui, il arrive avec une double réalité, à savoir c'est Zinedine Zidane, mais en même temps, il est titulaire de l'héritage Didier Deschamps. Et ça, il va falloir qu'il cohabite
mais
avec
comment il va faire? Il va être emmerdé pendant toute la conférence de presse. Les questions sur Cherki, les questions sur Mbappé, les questions sur l'attaque à 4, les questions sur Didier Deschamps, la transmission, sur le bilan. Qu'est-ce que vous voulez impulser? Comment on va jouer, etc. avec Mbappé. Et moi, je te dis sincèrement. Et s'il est pas prêt ou s'il est pas bon, moi, pour moi, la première impression est quand même importante quand tu rentres dans cette équipe de France. Donc moi, par rapport à ça, sincèrement, j'aurais repoussé. Et dans un monde idéal, moi, ce que j'aurais aimé, mais dans un monde idéal, je suis chez les bisounours, hein, mais un peu ce qui s'est passé avec Regragui et Wabi. C'est-à-dire qu'une vraie conférence de presse avec un hommage avec Didier Deschamps dans un premier temps. Et derrière,
dans l'idée que c'est un peu compliqué.
Voilà, ça n'arrivera jamais, vu les inimitiés qu'il y a entre les deux personnes, même si moi, je pense qu'il y a un minimum de respect par un professionnel, mais que ça se passera jamais comme ça, que Deschamps ne se soumettra pas à Zidane et que Zidane.
Bah, je vais te dire comment ça va se passer. Voilà, il va louer le travail de son prédécesseur. Il va encenser la qualité des joueurs français. Il va te dire que Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde, qu'il va s'appuyer sur lui, que lui, il voudra avoir le ballon, qu'avec le talent qu'on a, c'est à nous de faire le jeu, et qu'il va essayer de gagner l'Euro et la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise d'autre? Il va pas te dire qu'il aurait fait jouer ou pas Cherki en plus.
C'est déjà pas mal, en fait.
Moi, j'aurais préféré.
Oui, mais non, vous êtes pas d'accord.
Moi, j'aurais préféré une trois pages dans l'équipe. Après, tu l'auras.
Le peuple,
tu l'auras en conférence de presse quand il va annoncer sa liste à la FFF, où là, il y aura les questionnements sur sa liste et sur son intronisation. Mais un vrai truc de trois pages, quatre pages en SoFoot ou je sais pas où, bah, il viendra jamais à l'After Foot. Mais en tout cas, j'aimerais bien. J'ai même travaillé dessus, mais en tout cas, le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'avoir un vrai état des lieux du foot de Zidane 5 ans après sa Liga, ou même 6 ans, c'est quoi, 2020-2021?
C'est 2021.
Dernier
match contre Villarreal.
Voilà, donc on va faire 6 ans de foot sans Zidane.
C'est une rareté.
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il en a pensé? Le football, il a changé de Mbappé, de façon Zinedine Zidane. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on va l'avoir ou qu'il ait envie de le donner.
Pas tout de suite. Alors, à mon avis, il y aura des consignes de prudence, en effet.
C'est vrai que Walid, il soulève un point, c'est un cas unique d'avoir un entraîneur qui s'est arrêté 5 ans. Et là, il récupère une sélection qui est quand même impressionnante. Alors oui, elle a terminé qu'en demi-finale de Ligue des Champions, mais ça reste impressionnant. Et ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, s'il reprend l'équipe de France, c'est parce qu'il s'appelle Zinedine Zidane, un entraîneur qui a prouvé du côté du Real Madrid. Ouais. Parce que autrement, tu fais 5 ans sans coacher, c'est quasiment éliminatoire.
Non, mais ce que je veux dire, moi, c'est que, en fait, parce que si tu voulais un peu pronostiquer la conférence de presse, ça va être une conf mainstream JT de TF1, quoi.
Oui,
JT de TF1, 20h. C'est-à-dire que les photos, le fait d'avoir l'intronisation de les photos avec Philippe Diallo notamment, les photos avec l'équipe de France, il va te dire en fait ce que représente pour lui l'équipe de France, ce que ça a représenté pour lui. Voilà, on va être sur un truc un peu le coq,
mais bien entendu, bien sûr,
etc. Sauf que nous, qui sommes un peu spécialistes, qui aimons,
mais ça va se rapporter.
Voilà, exactement. Donc voilà, moi j'imaginais un truc plus global.
Mais c'est pour ça. Ah oui, mais en effet, je pense que il y a beaucoup d'attentes qui vont être un petit peu déçu
après les gars, j'ai envie de dire c'est la première sélectionneur d'un nouveau sélectionneur depuis 2012.
Voilà.
Donc voilà.
Non mais en plus moi évidemment je suis un dévot de Zinedine Zidane, hein. J'ai grandi avec ses exploits sur le terrain, mais on sait qu'il a quand même peu d'appétence pour l'exercice médiatique. Il a appris.
Moi ça, je vais l'attendre là-dessus.
Il a appris à le faire, mais justement, on va continuer d'en parler.
Ça m'intéresse moi de comment il va réagir aux critiques, comment il va les gérer, comment il va gérer les médias.
Lui-même conscient que c'est un petit reproche qu'on a eu l'occasion de souvent de lui faire. Bah là, à la tête de la sélection.
Je sais pas si vous avez vu la conf de Klopp.
Justement, j'allais vous en parler.
Moi, ça m'a surpris, quoi. Pas tout vu, mais j'ai vu quelques vidéos en disant, moi, je me barre si vous parlez de.
Ah, mais lui, c'est un animal médiatique.
Mais d'accord, mais. Ok, mais comment tu dis ça? Moi, je trouve ça très surprenant.
Si vous en prenez à ma famille, je me casse,
etc.
Lui, c'est l'opposé de Zinedine Zidane. Il adore, notamment, pour lui, c'est un
match. Oui, mais comment interpréter son.
Il pose ça.
En fait, le football, c'est ça, Jürgen Klopp, c'est les médias, alors que le mec a.
J'allais te dire, c'est un peu à l'image du football un peu anarchique.
C'était son gegenpressing. Il a piqué en conférence. Oui, d'accord, mais s'il y en a plusieurs ici qui disent que je suis pas bon, je me casse. C'est comment tu peux dire ça?
Je ne fais pas ce boulot pour moi, je le fais pour vous.
Il y a eu des réponses quand même très étonnantes quand même de la part de Klopp.
Voilà, c'est un immense honneur, je suis très bien payé pour cela, mais le jour où vous déciderez de ne plus me garder, je partirai. A-t-il dit lors de sa présentation. Mais ça,
je peux pas y croire une seconde, en fait.
C'était un moment.
Et puis tu peux pas arriver comme ça et dire ça.
Mais je pense que ça va être plus ouaté, plus mesuré du côté de Zinedine.
Oui, mais d'accord, mais oui, mais comme quoi la sélection, c'est la sélection. C'est bizarre. J'ai jamais entendu dire ça avec Liverpool.
Oh là là, quel crack. On accueille Joe qui a fait le 32-16. Bienvenue dans l'After, Joe.
Ouais, salut l'équipe.
Salut Joe.
Nous, ça va toujours bien, tu sais, quand on est dans l'After. Qu'est-ce que tu attends de la première prise de parole de Zidane sélectionneur, mardi à 11h, je vous le rappelle, spécial sur RMC, Flora Moussi au platine.
Ah bah, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, il va commencer par... Alors, il n'est pas obligé de nommer Deschamps, évidemment, parce que j'ai l'impression que les deux, ils évitent de prononcer leurs noms respectifs. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, ils saluent le travail qui a été accompli... dans la période avant.
Mais il le fera, dans pas
J'espère, oui.
Évidemment.
Je pense qu'il va le faire, et même parce que je pense qu'il y a des gens du staff qui vont rester, avec qui il va travailler, donc je pense pas que... Voilà, je pense que déjà, c'est la première chose, c'est important. Pour la suite, je pense qu'il faut que, effectivement, ils prennent le temps de calmer un peu tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde est très excité, que tout le monde attend des résultats très rapides, parce que c'est Zidane, parce qu'il a cartonné en tant qu'entraîneur. J'ai peur aussi que tout le monde ait oublié à quel point c'est difficile d'avoir une sélection qui fonctionne. Parce que Deschamps l'a rendu peut-être facile à sa manière. Mais il faut se rendre compte quand même que même quand on a eu des très très bons joueurs dans plein de périodes en équipe de France, quand ça marchait pas, ça marchait pas. Et j'ai l'impression que tout le monde a l'impression qu'il va arriver et qu'il va faire mieux que Deschamps.
Mais Joe, moi, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est un son de cloche qu'on entend très rarement. Et moi, je suis un peu dans ton équipe. Il y a quand même énormément de gens qui sont persuadés que Zidane, sélectionneur, on va tout gagner.
Non.
Et en jouant un football, Joga Bonito.
On est marre de ça, Simon, parce que j'ai l'impression, en fait, qu'à force d'entendre ces gens-là,
exactement.
En fait, il y a que ces gens-là qu'on entend, en fait.
Ouais.
Vous citez, mais comment s'appelle l'auditeur, j'ai oublié.
Joe.
Comme Joe. Les gars, vous pensez que Zidane, ce sera mieux que Deschamps dans le jeu, etc. Mais tout le monde dit ça, en fait, au final. Ce que j'entends le plus, c'est que tout le monde dit, les gars, attention, hein, parce que Zidane, c'est pas Joga Bonito. Mais qui a dit dans les médias sérieux, Zinedine Zidane, on va se la fendre tous les matchs.
T'as pas l'impression que dans les critiques qui ont accompagné quand même des.
Il y a juste un changement de visage.
Il y a
juste un changement de visage qu'on a envie de voir. On a cette excitation de voir Zinedine Zidane, mais pas dans le volet jeu, dans le fait dans l'incarnation.
Oui, de cette équipe de France.
Il faut dissocier ça. Tout le monde dit ça maintenant. Tout le monde. C'est devenu un avis tapine de venir dire attendez, les gars, mais si vous pensez que ça va être mieux que Deschamps, vous mettez le doigt dans le nez. Mais encore une fois.
Je te dis pas. Je te dis pas dans l'œil, a priori.
Dans l'œil, pardon. Chaque fois, je me trompe. Oui,
mais ça, c'est un jingle.
Non, mais
j'espère que Joachim Löw.
Moi, je te dis juste qu'on n'a aucune certitude, aucune visibilité. Elton l'a rappelé, je vous le disais aussi, ça fait 5 ans qu'il n'a pas entraîné. Et
mais Simon, je vais te
balancer. Son réel était d'un pragmatisme.
Je vais te balancer un scoop. Zidane est beaucoup plus proche de Didier Deschamps que de La Fuente.
Je suis bien d'accord avec toi.
Mais ça, c'est un tapine. C'est un tapine parce que, en fait, moi, j'attends pas de Zidane qui soit la rupture par rapport à Didier Deschamps sur le plan du jeu. Ça sera à minima une évolution.
Mais vous n'êtes pas d'accord qu'il y a quand même beaucoup de gens
qui sont persuadés, mais qui sont ces gens, je ne comprends pas. Qui vient, qui dit on va se faire régaler.
Attends, Walid, j'ai une question à te poser. Si au prochain Euro, l'équipe de Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France de Zidane, se plante.
Mais c'est quoi se planter?
C'est se planter comme on a estimé que Deschamps s'était planté à son Euro. Okay.
Donc quoi, ils sont en 8e.
Qu'est-ce qui va se passer?
À quel Euro tu parles? Euro 2021?
Il parle de 2021.
Tu parles de 2021?
Ouais, bien sûr.
Ok, ah, d'accord. Ok, d'accord. Oui.
Ben voilà, ça va être quoi? Il va se passer quoi?
On va mais dire, on en est pas là. Mais non, alors attention. Là déjà, il y a deux choses. Le jeu ou l'aspect compétitif? Parce que la compétitivité, moi je pense pour le coup que Zidane peut se rapprocher de la compétitivité de Deschamps avec les joueurs qu'il a aujourd'hui. Je vois pas pourquoi en fait il serait moins compétitif que Deschamps. Ça moi.
Ah mais qu'est-ce que tu dis? Tu penses qu'il peut faire aussi bien en termes de résultats?
Compétitif, c'est la compétition. Oui, être un animal de compétition. Merci. Non mais ce que je vais expliquer, c'est ça. C'est pas forcément jeu ou pas jeu. On se la régale ou on se la régale pas. C'est-à-dire atteindre les hauteurs de Didier Deschamps. D'accord? Parce que la réalité, c'est qu'en 14 ans, je ne veux pas dénaturer. Encore une fois, je ne veux pas remettre une pièce dans la machine. Mais sur l'aspect compétitif, il a gagné une fois. Didier Deschamps. Non, sur l'aspect compétitif, Simon. Donc, d'accord. Sur 14 ans, attendons 14. Si en fait, il faut égaler Didier Deschamps, attendons 14 ans, donnons 14 ans à Zinedine Zidane.
Égaler, c'est beaucoup plus complexe. Égaler, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'à côté de ça, il y a des finales.
Et on fera le bilan compétitif. Et là, en fait, je peux rejoindre Joe en disant bah là, on verra si c'est mieux que. Si Zidane, c'est mieux que Deschamps, ou si c'est autant que Deschamps, ou si c'est moins bien que Deschamps. Et moi, je pense qu'il y a des gens qui pensent que ce serait. Meilleur, ce serait mieux avec Zidane que Deschamps. Ces gens-là existent. Moi, j'en fais partie. Par contre, sur l'histoire du jeu, en disant arrêtez, vous pensez qu'on va on va plus se la régaler avec Zidane que Didier Deschamps. Ça, pour le coup, personne. Moi, j'entends. Il y a personne qui a fait un avis tranché à l'after. Je suis désolé. Je dois être à 150 dates à l'année. Il y a personne qui. J'écoute l'after tous les soirs. J'écoute le soir. Il y a personne qui est venu qui a fait un avis tranché en disant Simon Dutin. Moi, je pense que Zidane, il va mettre une claque football. Balistique à Didier Deschamps. Voilà, il va nous rappeler l'Espagne 2014, l'Espagne 2008.
Alors moi je vais te la tourner. Je vais te le tourner différemment. Tu rappelles. Alors c'est pas gagné, mais bon, finale 2016, finale 2022. Moi je considère que c'est quasiment gagné et que.
Non, c'est pas gagné.
Je trouve ça. Je trouve que c'est quand même un accomplissement.
On parle de gagne, on parle de compétitivité.
D'accord.
Parce que le jeu en 2016. Le jeu en 2016 et en 2022, Simon. Le jeu en 2016 et en 2022.
Mais de tout temps, sous l'ère Deschamps, de toute façon.
Parlons pas de jeu, alors. Parlons de compétition.
Oui, mais alors, les deux sont liés.
Mais non, c'est différent.
Non, ce que je veux dire, c'est que souvent, dans les critiques, c'est difficile de sortir un sélectionneur qui t'emmène en demi ou en finale d'un très grand tournoi. Mais dans les arguments de ceux qui tenaient à ce quand même, on en finisse avec Deschamps, malgré ce qui reste pour moi des accomplissements à ces altitudes, il y avait l'argument. On l'a même entendu alors qu'on a gagné en 2018. On gagne, mais on se fait chier. On gagne, mais on s'emmerde. On gagne, mais ça joue pas bien. Et à ce titre-là, je suis désolé, il y a des gens, y compris sur RMC, qui réclamaient le départ de Deschamps parce que ils voulaient que on propose autre chose en termes de.
Donc tu penses pas ricocher si tu demandes le départ.
Et comme c'était Zidane qui allait prendre la suite.
En fait, par ricocher, tu penses que si on demande le départ de Deschamps, on estime qu'avec Zidane, ce sera mieux.
Je pense que dans le logiciel de beaucoup de gens, c'est comme ça.
Pas parce que moi, Deschamps, je veux qu'il parte. Et encore que moi, sur la dernière année, j'étais quand même plutôt positif, mais encore plus sur le dernier Euro, sur ce que proposait Deschamps, ou en tout cas son équipe, l'image qu'avait son équipe, où je me suis régalé. Tu penses que moi, je dis. Bah, attention.
Globalement,
tous ces gens-là, je pense que moi, il faut dissocier. C'est pas parce qu'on veut le départ de Deschamps que quand Zidane, ça jouera moins bien, on dira rien non plus. Et la réalité, c'est que l'histoire de la compétitivité sur Deschamps, on rétorque. Moi, je rétorque aux gens qui te disent Deschamps, fermez-la, c'est la gagne. On en a rien à faire, rien à cirer du jeu. Que je dis, finalement, il a gagné une fois en 14 ans. Mais moi, je l'ai toujours répété. Il y a qu'un gagnant par compétition. Que Deschamps fasse demi ou finale, je trouve ça énormissime. Sauf que quand on dit qu'en allant à ces auteurs-là, on se fait chier dans le jeu, on te rétorque, oui mais c'est comme ça, Deschamps, c'est son savoir-faire, il gagne comme ça. Mais non, il ne gagne pas.
Parce qu'à la fin,
hormis 2018, il a trouvé son plafond de verre. C'est juste ça que je dis. C'est pour ça que pour moi, il y a plusieurs tiroirs dans ces débats-là. Et Zidane, j'ai aimé son 2017-2018 avec le Real Madrid, où ça jouait très bien avec le 4-4 de Los Angeles, avec Isco et tout, etc. Il ne faut pas enfermer Zidane en disant oui, ce n'est pas un tacticien, parce qu'il a eu des choix tactiques dans ses passages au Real Madrid, mais choix tactique ne veut pas dire idée de jeu magnifiée, magnifique à voir. En fait, il y a des gens qui font une chouchouka, en fait, ils font une salade. Ils font une salade avec
non, mais, des raccourcis.
Il y a beaucoup de gens qui comprennent. En gros,
parce que c'est pas du beau jeu, le mec, c'est pas un tacticien. Parce qu'en fait, il fait pas du beau jeu, en fait, faut être cohérent par rapport à Didier Deschamps. Forcément, vu que ce sera pas du beau jeu, ce sera pas compétitif. Ah, parce qu'en fait, vous aimez Zidane le joueur, alors vous êtes plus dithyrambique, vous allez être plus positif envers Deschamps. Mais Zidane, on va lui laisser quand même 2 ans quand même. On peut voir au bout de 2 ans ce qui va se passer. Et parce que Deschamps, on lui a quand même laissé 4, 5, 6 ans avant de devenir critique. On n'a pas. Moi, quand il fait le quart de finale avec Benzema contre le Honduras, contre la Colombie, contre le Nigeria, contre la Suisse, quand il gagne 5-2, on n'est pas critique quand il fait quart de finale contre l'Allemagne. C'était prometteur. Donc voilà, ouais. Zidane, on aura la même grille de lecture. Là, on a déjà les mecs assoiffés là, qui sont animés.
J'avoue finir la musique et tout, où en gros, les débuts de Zidane, ouais, ce serait un moyen de réhabiliter ce que faisait Didier Deschamps.
Et s'il perd le premier match, j'espère que vous allez le critiquer. Non, on est patient. On va être patient. Et on sera jugé. On sera juste quand il le faut.
Évidemment. Qu'est-ce qu'on a pris ? La marée monte vite. Mais j'adore t'écouter, Walid, et ça me manque de débattre avec toi. J'ai essayé de donner mon énergie. Je pense que tu l'as rappelé. Il y a quand même beaucoup de gens qui font un petit mix et qui mélangent un petit peu beaucoup de choses à ce titre-là. Zidane, présenté officiellement sélectionneur d'équipe de France à 11h mardi au siège de la Fédération Française de Football. Émission spéciale sur RMC autour de Florent Moussy de 11h à 13h. Et after spécial Zizou autour de François Pinet de 20h à 23h. Dans un instant, on va parler d'un entraîneur qui lui aussi se pointe dans ses nouvelles fonctions avec beaucoup d'attentes de la part de ses supporters. C'est Xabi Alonso à Chelsea. Elton et Walid nous diront s'ils croient à la réussite de Xabi Alonso à Chelsea. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'after foot.
Simon Dutin.
On se régale comme tous les soirs dans l'after en compagnie ce soir de Walid Acharchour et Elton Mokolo. Si vous avez manqué le début de l'émission, je vous invite à le podcaster sur l'appli RMC dès que le direct sera terminé, hein, évidemment, vous restez bien avec nous. Mais on a parlé de plein de choses. L'info du jour, c'était Rodri sur les tablettes désormais du PSG. On savait qu'il était convoité par le Real Madrid, le capitaine des champions du monde. Elle serait courtisée donc désormais par le PSG. Plus de précisions sur le site rmcsport.fr. C'est Fabrice Hawkins, le faucon évidemment, notre insider, qui a sorti cette info aujourd'hui. On s'est demandé si le PSG devait plus globalement se renouveler pour continuer à dominer notamment l'Europe. Et puis Elton nous confiait ses espoirs pour l'OM malgré des moyens limités.
C'est pas
pour
des espoirs, c'est la saison rédemption.
La saison redemption season.
Teaser,
il y avait la redemption song de Bob Marley. Il y aura la redemption season de l'Olympique de Marseille. On vient de parler de Zinedine Zidane. Vous avez entendu pendant la coupure que RMC diffusera en direct la conférence de presse du nouveau sélectionneur des Bleus. Ce sera officiel mardi, suivi d'une émission spéciale de 11h à 13h et d'un after spécial de 20h à 23h. Nous, on va parler de la Première Ligue. Elle reprend elle aussi le week-end des 21, 22 et 23 août prochains. C'est Arsenal, le champion titre, qui aura l'honneur d'ouvrir le bal, comme on dit. Réception du promu Coventry. Chelsea clôturera la première journée. C'est le lundi 24. Ça y est, c'est la tradition en Angleterre. On joue le lundi soir sur la pelouse de Fulham avec son nouveau manager, comme il faut dire, Xabi Alonso, dont la cote s'est un peu effritée hein, ces derniers mois après son échec au Real, dont il s'est fait virer en janvier dernier. Mais avant ça, c'était quand même un des entraîneurs les plus excitants en Europe, notamment avec ce qu'il avait fait au Bayer Leverkusen. Alors, il a signé pour 4 ans dans le club londonien. Les gars, est-ce que vous croyez, on va prendre le temps d'en parler, est-ce que vous croyez au Chelsea version Xabi Alonso ?
Clin d'œil du destin, t'as les deux anciens entraîneurs du Real Madrid qui vont s'affronter sur la première journée de Première Ligue. Arbeloa
qui a signé à Fulham,
en tant que manager. Mais est-ce qu'on y croit du côté de Xabi Alonso ? En fait, ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai envie d'y croire, mais il y a ce qui est intéressant, encore une fois, c'est deux destins parallèles qui ont connu des chemins qui ont été à peu près pareils, dans la mesure où saison 2024-2025, que ce soit Xabi Alonso, que ce soit Chelsea, Xabi Alonso est en pétard par rapport à ses résultats du côté des Leverkusen. Même chose pour Chelsea qui remporte et la Conférence League et le Mondial des clubs. Et la saison 2025-2026 devait être la saison de l'avènement. Xabi Alonso par rapport au Real Madrid et Chelsea par rapport à la Première Ligue.
À l'époque, c'était Enzo Maresca.
À l'époque, c'était Enzo Maresca. Sauf que pour des raisons diverses, bah, les deux ont été en situation d'échec. Et les deux, que ce soit Chelsea, mais aussi Xabi Alonso, sont à la relance. Moi, ce qui m'intéresse...
Dixième de Première Ligue, Chelsea, la saison dernière, le dernier titre de champion en 2017.
Exactement, hein, un résultat qui indique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les deux ont des intérêts communs. Ils sont à la relance, que ce soit Xabi Alonso par rapport à sa cote d'entraîneur sur le marché, mais aussi Chelsea, qui doit retrouver la Ligue des Champions. Voir que Chelsea, son dernier podium en Première Ligue, ça date de 2022, avec Thomas Tuchel, et depuis... Il y en a eu des entraîneurs. Pour moi, c'est indigne de Chelsea et de ce que ça représente en Première Ligue. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel point il va pouvoir impacter dans un premier temps ce club et dans un second temps la Première Ligue. Parce que le fait d'avoir Xabi Alonso en Première Ligue, c'était quelque chose qu'on attendait avec impatience. Il y a eu le passage du côté du Real Madrid qui a d'une certaine manière dévalué un peu sa cote. Et là, moi, j'ai envie de me dire qu'avec cet effectif-là, il y a des choses à voir pour retoucher à la Ligue des Champions.
Walid, est-ce que tu y crois? Je rappelle qu'il est le premier à recevoir le titre de manager de la part de Chelsea. Et ça date de avant Blue Corp, puisqu'il est le premier depuis Mourinho.
C'est ça.
Mourinho, le retour, version 2013. Conte, Sarri, Lampard, Tuchel, Pochettino, Maresca et Rosenior n'étaient que qualifiés de head coach. Alors, le côté manager, c'est... évidemment, pour signifier qu'il a un périmètre de décision et notamment dans le recrutement un peu plus important. Même si lors de sa présentation, il a dit on va bosser avec les directeurs sportifs. Façon de dire, moi j'ai rien réclamé quand même de
les
pouvoir.
Directeurs sportifs, hein.
Les directeurs sportifs. Exactement, ouais,
c'est une
exactement.
Particularité, tu sais, ouais. Toujours intéressant de le rappeler.
Est-ce qu'il a un effectif compatible avec ses préceptes de jeu?
Je me suis toujours pas remis la gestion de Xabi Alonso après le Real Madrid. Quand tu vois que Iraola est parti à Liverpool. Deux semaines ou trois semaines après son arrivée à Chelsea, moi pour moi il a été dans la précipitation. Moi je comprends pas.
Ou alors Liverpool avait Iraola en numéro un.
Ou alors Liverpool avait Iraola en numéro un. Sauf que les deux dernières années, quand il était au Bayer Leverkusen, j'avais pas le sentiment que Iraola.
Tu veux dire
que
je comprends pas
existait.
Pourquoi Liverpool n'a pas engagé Xabi Alonso et pourquoi lui n'est pas allé à Liverpool.
Un des deux en tout cas, parce que Elton a raison d'insister là-dessus. C'est peut-être aussi un camouflet pour Xabi Alonso mais j'ai du mal à y croire moi. J'ai du mal à y croire à part si on a des infos concrètes. Là-dessus, mais que ses agents ou son agent ou que lui-même n'est pas temporisé en se disant qu'il y avait un spot. Parce que moi, quand Xabi Alonso signe à Chelsea, tout le monde me dit non, mais de toute façon, Arne Slot, il va replonger un an de plus, etc. C'est bouché, faut qu'il reparte bosser. Parce que les places sont chères. Sauf que là, excuse-moi, mais moi, je voyais beaucoup plus Xabi Alonso à Liverpool qu'à Chelsea. Bon, maintenant.
On rappelle que c'est une légende du club en tant que joueur. Il a remporté la Ligue des Champions.
J'aime les belles histoires et j'aurais aimé voir Xabi Alonso à Liverpool. Maintenant, il est à Chelsea. Chelsea, on sait ce qui s'est passé l'année dernière avec une gestion cataclysmique, avec une dixième place, avec un 8-2 contre le Paris Saint-Germain, avec encore une fois une planification sportive qui laisse à désirer. Là, il y a un... Je répète, mais moi, pour moi, Chelsea est beaucoup plus gagnant que Xabi Alonso dans le deal, je pense.
Dans quel sens?
Dans quel sens?
C'est mieux pour Chelsea que
mieux pour Xabi Alonso.
C'est mieux aussi pour Xabi Alonso, parce que la réalité de Xabi Alonso, elle a évolué.
Non, moi, je pense que ce qui s'est passé au Real Madrid, on sait très très bien que c'est le vestiaire qui l'a tué, et c'est pas lui qui s'est tué.
Il y a pas que le vestiaire.
Il y a pas que le vestiaire. En tout cas, si on doit, en tout cas, l'analyse qui prédomine, que ce soit à l'intérieur du club, à l'extérieur du club, et celle-ci, quand tu tombes sur un vestiaire aussi catastrophique à gérer, et on s'en est rendu compte. Sur la dernière année, avec Carlo Ancelotti, avec Arbeloa et avec Xabi Alonso, et qu'on a un président qui, on va pas refaire l'histoire, mais qui est complètement cuit, c'est très très dur de gérer un vestiaire avec l'épisode de Vinicius, de Valverde ou de Xabi Alonso ou de Bellingham, même si Xabi Alonso n'a pas fait tout parfaitement, mais comme tous les coachs.
Le fait est qu'il s'est pas imposé.
Oui, mais à un moment donné, quand t'es sur un terrain miné, quand il y a des balles de partout, il y a un moment, t'en prends une, et surtout quand tu n'es pas adoubé par quelqu'un qui normalement t'avait mis en place. Parce que quand moi je vois le mercato qui est en train de faire le Real Madrid pour José Mourinho
José Mourinho.
Ah bah oui, bah c'est un problème. Le problème c'est pas Xabi Alonso. Xabi Alonso ne peut pas être José Mourinho. En fait, Xabi Alonso par rapport à la dynamique, parce qu'on va si on a un peu de temps, on va pas refaire le débat du Real Madrid, mais si tu veux on peut le faire. Moi ça me dérange pas. Xabi Alonso sur la dynamique met une claque à Mourinho. sur la dynamique sportive avant qu'il arrive au Real Madrid, et que le choix logique de faire un état des lieux de l'effectif et d'être dans une agressivité sur le mercato, il doit se faire beaucoup plus avec Xabi Alonso qu'avec José Mourinho.
L'été d'avant, ils ont quand même beaucoup investi, notamment sur le prix du monde des clubs.
Ils ont pris Alexander Arnold, ils ont pris Carreras, ils ont pris Essien, mais par rapport au manque qu'il y avait véritablement, on peut pas comparer là, par rapport aux joueurs qu'on cite ou par rapport à l'expérience que va essayer d'aller chercher le Real Madrid. Rodri, t'as parlé d'Olise il y a dix jours, voilà, il y a quand même des joueurs, Konaté, Dumfries, c'est pas du tout la même nature de mercato, surtout en plus sur le projet U23 et sur le projet post U23. Bon, bref, en tout cas, moi je pense que dans c'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais que Chelsea finir qui a la gueule cassée dans l'histoire. Chelsea qui finit dixième avec ce 8-2 contre le Paris Saint-Germain, avec encore une fois des recrutements en veux-tu en voilà, où on comprend pas la stratégie, ou Xabi Alonso qui a viré Maresca avec une gestion calamiteuse, ou Xabi Alonso qui a subi le contexte du Real Madrid. Moi, je suis désolé, j'ai beaucoup plus espoir.
Les deux ont pris un uppercut.
Mais les deux ont pris un uppercut, mais pas pour les mêmes raisons. Oui. Qui a décidé de quoi? Moi, je pense que qui subit quoi? Chelsea subit rien. Chelsea subit Chelsea. C'est Chelsea qui impacte. Xabi Alonso, on a quand même impacté globalement la planification sportive d'un vestiaire.
Il subit la vie d'un entraîneur au final.
Mais bien évidemment, mais sauf que bon. Et encore plus. Et le problème, c'est qu'encore plus, si on doit se réfugier sur le choix de Xabi Alonso, il quitte un des clubs les moins bien gérés pour l'un des clubs les moins bien gérés. Donc, c'est-à-dire que même sur le choix, Moi, je suis désolé, mais je trouve ça très bizarre. Maintenant, vu que c'est un entraîneur qui reste de qualité, peut-être qu'il va s'épanouir. Mais je te le dis, moi, j'ai sauvé Xabi Alonso sur le choix Real Madrid. Je le sauverai pas sur le choix Chelsea, hein, parce qu'il y a un moment, t'es sadomaso.
Oui, voilà.
Non, mais il y a un moment, t'aimes les bourbiers. Hein. Si encore une fois. Tu estimes que t'as pas compris que toi il te fallait un bon contexte et peut-être attendre Liverpool ou peut-être attendre qu'il y ait de la casse en septembre, en novembre dans un gros club un peu plus sain, plutôt que d'aller dans ce type de challenge là, il va falloir en payer les conséquences si ça fonctionne pas.
Bon, on verra. Chelsea qui a quand même beaucoup recruté et certainement en fonction des désirs. Rodgers,
c'est le petit Italien.
Palestra,
ce qui m'intéresse, c'est que t'as un...
Et puis il y a méga, attention.
Oui, t'as un recrutement tourné vers l'APL qui peut être intéressant. Et globalement, t'as des ressources internes à mettre en avant.
Oui.
Je suis très impatient de voir la deuxième saison d'Estevao. La deuxième saison.
Oui, mais alors Estevao, il jouait pas trop avec des ailiers quand même, notre ami Xabi Alonso.
L'intérieur pour passer Florian Wirtz, ça peut être intéressant.
Moi, j'aimerais voir Cole Palmer en nouveau Florian Wirtz. Il a été très élogieux, évidemment, à son arrivée.
Ce sera que sa quatrième saison.
Voilà, bon. Affaire à suivre. Chelsea, donc, qui entamera sa saison sur la pelouse de Fulham. Mais je crois qu'il a essayé. Qui sera son piston, sa pointe basse du milieu de terrain, son Xhaka version Chelsea? Début de réponse, je vous le disais, le 24 août prochain, déplacement sur la pelouse de Fulham pour la première de Xabi Alonso en première ligue. Vous ne bougez pas, Walid et Elton non plus dans un instant. On prendra quelques minutes pour parler de la bagarre que se livrent désormais le PSG et le Real Madrid pour le transfert de Yann Diomandé. A tout de suite.
RMC, l'afterfoot.
Simon Dutin.
La dernière ligne droite de l'after en ce samedi 25 juillet 2026. Walid Acher, Elton Mokolo pour vous accompagner quelques minutes encore. L'after tous les soirs de l'année et donc en été. L'été, les gars, c'est super parce que même quand il n'y a pas de match, au moins, il y a le mercato.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le manger.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui, c'est 30 000. C'est un con.
Tu nous as vu venir. Et les piments, tu les négocies pas, non? Pas les piments. Vous avez pas connu le télétexte, vous, à l'époque sur la télé?
Si, Simon, quand même.
On grignotait 3-4 infos mercato par jour.
Si, on a connu cette époque, folie. T'inquiète pas.
Bon, une info quand même. On a parlé de Rodri sur les tablettes du PSG. Du coup, effet mécanique ou pas. Là encore, c'est Fabrice Hawkins, notre insider, qui nous la révèle. À la suite, il confirme les infos de certains médias espagnols. Le Real qui concurrence le PSG sur le dossier Diomandé. On sait que Leipzig est très gourmand sur ce dossier. Le Real qui aurait donc abandonné ses rêves, ses fantasmes de Michael Olise, qui se rabattrait sur Diomandé et qui serait prêt visiblement à payer un petit peu plus cher que ce que Paris
se refuse à, alors que Paris se refuse à le faire jusqu'ici. Votre réaction, les gars?
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le mercato qui devient de plus en plus agressif. C'est incarné par le Real Madrid qui, à la différence du PSG, arrive revanchard avec cette idée de se renforcer à tout prix dans tous les sens du terme. Et en gros, quand tu vois Diomandé qui est présenté comme l'ailier de demain, entre guillemets, il y a qu'à voir son casting. Il est question du PSG, d'Arsenal, Manchester City, le Barça s'était renseigné. On veut se renforcer à tout prix avec Yann Diomandé, quitte à pouvoir sur pied. Et si tu veux, ça fait l'affaire de trois parties. À commencer par le joueur, qui irait dans un top club capable de se battre pour la Ligue des Champions. Leipzig qui ferait sa plus grosse vente. Et enfin, le Real Madrid, qui, moi, j'ai dans l'idée, prépare déjà l'après Vinicius.
Alors, selon les infos de Fabrice, le Real aurait déjà transmis une proposition à hauteur de 100 millions d'euros, bonus compris. Elle a été refusée par Leipzig, qui en attend plus. Walid, ta réaction?
Moi, je suis sans voix.
Paris a raison de pas monter les enchères.
Ouais. Bien évidemment, quand t'as Bradley Barcola encore sous contrat, moi j'aime beaucoup le joueur, mais là tu lui mets une cible dans le dos à 120 bâtons au Real Madrid. Sincèrement, moi
c'est un joueur qui est
très jeune, qui est très brut, qui a encore une grosse marge de progression.
Qui joue à Leganés,
il y a encore un peu. Il joue à 30 minutes du Bernabéu.
Bien sûr.
C'est ça, oui.
Moi je comprends pas les mecs qui ont pas la vision, qui ont la vision en retard, quoi. En retard et qui se font assassiner. Et puis en plus tout ce qui sort et tout ce qui se dit dans le monde du football autour de Yann Diomandé et ses agences de com, ceux qui gèrent son transfert, ceux qui gèrent ses intérêts.
Trop gourmand, trop jeune.
Mais non, mais il y a eu des trucs pendant la CAN. Bref, c'est un jeune joueur qui aujourd'hui est dans un monde de requins et qui va, pour moi, se faire broyer par le foot business. Aller au Real à 19 ans pour 120 bâtons, mais il va falloir être très très costaud, hein. Va falloir être très très fort pour réussir à s'épanouir là-bas. Quand moi je vois Mastantuono, quand je vois les mecs, qui ont coûté moitié moins, tu vas arriver avec, à chaque fois qu'il va avoir un match, tu vas te dire, mais ce mec-là, il a coûté 120 bâtons.
C'est top 5 transfert de l'histoire du Real.
Vient d'Eden Hazard, hein. Souvenez-vous qui est arrivé comme une star du football.
Alors
mondial
qu'on
n'a
pas
aussi,
une
hein.
image en Bundesliga, parce que ça reste un championnat qui est confidentiel aujourd'hui pour le grand public, pour la Liga, pour ceux qui suivent la Liga, pour ceux qui suivent la Ligue des Champions. Donc moi, sincèrement, c'est terrible. Tu disais c'est un bonheur pour les trois parties, ouais, parce qu'il y a du cash, mais en vérité, c'est un enfer pour le joueur. Moi, je dis pour son
épanouissement. Enfin, un enfer, il fait une bascule Leipzig Real Madrid.
Mais non, pour son épanouissement, je dis sincèrement, si ça se loupe,
ça peut lui coûter sa carrière.
Ça peut être très très compliqué. Moi, je te dis sincèrement, dans le pire des cas, on peut. J'ai pas envie d'être. J'ai pas envie déjà de le condamner parce que c'est un joueur qui peut faire des belles choses et moi j'aime. J'ai vu son début de Coupe du Monde, il était très très fort contre l'Équateur. J'ai beaucoup aimé le joueur. Mais en fait. Comme un Roy Drenthe ou comme un, tu vois, tous ces mecs
là c'est dans d'autres proportions dans, là.
Non mais c'est vrai que Drenthe il était arrivé au Real que comme un phénomène
des proportions bien plus importantes, ouais. Et pour moi ça ne joue pas en faveur de Diomandé par rapport à son prix. Tu peux dire dans 10-15 ans, ah mais tu te rappelles, ah ouais ben il va faire une Diomandé, ah tu te rappelles Diomandé, tu te rappelles. Il y a un moment, pour l'équilibre du joueur, pour son épanouissement, l'étape, elle peut se faire au Real Madrid, mais pas à ces hauteurs-là. Et moi, si je suis du côté des supporters et des observateurs du Real Madrid, passer de Michael Olise à 150 bâtons, à Diomandé à 120 bâtons, mais il y a quelqu'un qui m'a pris pour un con, là, dans l'histoire.
Qui ça?
Non, mais je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a une erreur dans la marchandise, quoi. On s'est trompé de colis, quoi. C'est-à-dire que pour 30 millions d'euros, t'es en train de m'expliquer que Olise, mais je préfère mettre 200 bâtons sur Olise que récupérer 120.
Olise, il est invendable.
Voilà. Donc, en fait, à ce moment-là, on doit être dans la raison. On doit être beaucoup plus raisonné.
C'est le Real qui fait un caprice, tu penses?
Et surtout,
justement,
en plus,
si c'est pour faire
sortir Real Madrid. Et puis, en plus, si c'est pour faire sortir Vinicius, qui est dans la même agence que notre ami Diomandé, il y a un moment aussi, je trouve que tu perds au change sportivement, quoi.
Ça, oui. Il y a eu une petite rumeur qui est sortie aujourd'hui sur Vinicius dans le viseur d'Arsenal. Bon,
rumeur, c'est quand même David Ornstein.
Ouais,
Et aujourd'hui, on est. Moi, je peux pas croire que le Real Madrid se soit positionné sur Diomandé en ne sachant pas ce qui va se passer pour la guerre de Vinicius.
Ça fait flipper.
Moi, ce qui me fait penser que, en fait, ils accélèrent sur Diomandé, c'est parce qu'ils sont conscients que Vinicius est beaucoup plus proche d'un départ du Real Madrid que de prolonger. Et donc, tu dois te positionner. Et il se trouve que Diomandé, bah, par son casting, notamment des clubs potentiels, bah, c'est l'ailier de demain. Et l'ailier de demain, pour l'instant, je continue de penser, c'est beaucoup plus un potentiel qu'une réalité. Mais c'est un transfert très Real Madrid parce que c'est quoi la plus belle chaussure actuellement? C'est Diomandé et bon, on prend.
Et ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec Mastantuono entre exactement. Le PSG et le Real l'an dernier. Le PSG qui n'avait pas voulu
rentrer. Il y a 12 ans, c'était James Rodriguez. Aujourd'hui, c'est Diomandé.
Dernière petite info, Mercato, Alabiegovic, le Bosnien, le jeune Bosnien si talentueux, aurait trouvé un accord avec Chelsea. Voilà,
où il devrait Begovic s'engager. Avec Begovic,
Alain, le jeune joueur qui gigote.
Formé à Leverkusen, il a connu
exactement, il a connu le nouveau boss de Chelsea dont on parlait à l'instant. Toutes les dernières infos Mercato sur le site rmcsport.fr. L'After revient demain, merci beaucoup Walid, merci beaucoup Elton. Vous, auditrices, auditeurs, vous restez bien sur RMC, le sport, l'info, le débat ne s'arrête jamais, salut.
RMC, l'After Foot.